Deuxième partie, chapitre 4, le triomphe de M. Bobby. Pendant cet incident, M. Bobby se rongeait les poings. Par quelle fatalité trouvait-il sur sa route un des hommes à qui il voulait mal de mort, un misérable qu'il avait insulté, bafoué, et cela au moment même où il sentait, en une intuition géniale, que l'affaire Coxward allait prendre une physionomie toute nouvelle. « Hello, Bobby. Très vos rancunes personnelles. Tu as une tâche à remplir. Tu dois réhabiliter le nom que tu as donné à ta digne épouse. Sois homme et déploie toutes les ressources de ta remarquable intelligence. Ta vengeance viendra plus tard, froide et meilleure à déguster, comme a dit le poète. » Sœur Hassel rentra. Bobby salua militairement. « Monsieur, lui dit le jeune Anglais, vous vous présentez sous les auspices d'une personne qui m'est plus chère que ma vie et dont une circonstance effroyablement tragique m'a contraint à m'éloigner. À sa lettre était jointe une photographie. « Vous connaissez cet homme ?» s'écria Bobby, incapable de maîtriser plus longtemps son impatience. « Hélas, puis-je dire que je le connais? Je ne l'ai vu que pendant quelques secondes à peine. Et en telle occurrence, si terrible et si atroce que ces miracles, si ces traits se sont fixés dans ma mémoire. Vous ignorez qui il est? Oh, absolument. Et quand l'avez-vous vu? Oh, cette date ne s'effacera jamais de ma pensée, c'est... Laissez-moi achever, dans la nuit du 1er au 2 avril. Oui, mais à votre tour, comment savez-vous cela? Bobby eut un petit geste de tête que ses paroles accentuèrent. Oh, que voulez-vous, un peu de divination, l'intuition, Sir Arthur, l'intuition. Donc cette date est bien exacte. « Oui, absolument. Et j'ajoute que ce fut entre 1h et 2h du matin. Oui, à 1h35. Oui, c'est à ce moment que, sous les coups d'une affreuse fatalité, toute mon existence fut brisée, que la douleur, le désespoir, le remords entrèrent dans mon cœur et en prirent possession. » Oh, pour n'en plus jamais sortir, jamais, jamais. Et le jeune homme laissa tomber sa tête dans ses mains. Un instant, dit Bobby avec un geste d'autorité. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé, mais si c'est pour ce personnage que vous vous mettez en de tels états, Carl George Coxward, vous y direz ce nom à ce qu'il paraît. Oh oui, je l'entends prononcer pour la première fois. Monsieur John Coxward, dis-je, est, ou plutôt, était le plus insigne vaurien qui eût jamais traîné ses savates dans les bas-fonds de Londres. Était, dites-vous, quoi? Il est bien vrai qu'il est. Mort, archi-mort. Ce dont il ne faut savoir qu'avec modération. Cet incident lui ayant évité la potence qu'il attendait à très courte échéance. Mais qu'importe, oui, mais c'était un homme, et je n'avais aucun droit sur sa vie. Mais dites-moi, comment êtes-vous sûr qu'il est mort? Je vous parle d'une constatation fort simple, j'ai reconnu son cadavre. Ah, on a retrouvé son cadavre? Et où cela? Ah, ici, sœur. Je vous prie de faire appel à toute votre énergie. Car ici, c'est le point grave, la crête de la côte mystérieuse que je cherche à gravir. Le cadavre de John Coxward a été trouvé au milieu d'une place publique dans cette même nuit du 1er au 2 avril, à 5h du matin, à Paris. À Paris ? S'écria Sir Hassel en se redressant. « Yes, sir, c'est-à-dire à 250 miles d'ici, à vol d'oiseau. Or, de 1h35 à 5h du matin, cela nous donne justement 3h25 dont il convient de déduire les 10 minutes d'avance que Paris a sur nous Donc 3h15. Alors, est-il possible qu'un homme fasse, volontairement ou non, ce voyage en un délai si court? Mais oui, cela est possible, clama Sir Russell. Oh, je dis plus, ce délai est 3-4 fois plus long qu'il ne devrait être. 250 miles, mais monsieur, c'est l'affaire de 3 quarts d'heure au plus. On comprend que Bobby ne l'interrompit pas. Pour lui, la lueur, naguère entrevue si faible, s'élargissait, s'épanouissait, aveuglait. Il n'y a rien d'impossible, dit-il. Mais vous avouerez qu'il est difficile de croire que le nommé John Cosworth, l'espèce de va-du-pied sans sou ni maille, fut en possession de moyens de locomotion aussi rapides. Malgré toute la confiance que vous méritez, vous me permettez de douter un peu. Vu par vous à ce que vous dites, à 1h30 du matin, un homme ne pouvait être à 100 lieues d'ici à 5h du matin. Sir Russell eut un geste de colère. Mais quand je vous dis qu'il serait dû être à Paris à 2h30 au plus tard. Et il ajouta d'un ton plus bas. Oh oui, je me rappelle. Le Vriogir était orienté vers l'est. Vrio quoi ? Cria Bobby d'un ton interrogateur. Ah oui, vous ne pouvez pas, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre, vous ignorez. Que l'être chétif que je suis est en possession d'une force prodigieuse, à laquelle nul miracle n'est impossible. Et que lorsque m'est arrivée la catastrophe en question, je n'avais plus que quelques misérables détails à régler pour que cette énergie formidable dont je suis le maître fût révélée au monde stupéfait. Mais quelle catastrophe ! S'écria Bobby. Et voyant l'exaltation qui s'emparait du jeune Anglais, « Sir Russell, reprit-il doucement, je m'appelle Bobby, attaché à la police de Sa Majesté britannique. Par suite de l'aventure arrivée à ce misérable Cosworth, je suis en passe d'être chassé de mon emploi, c'est-à-dire déshonoré en face de l'Angleterre tout entière. Et ce qui est plus douloureux encore pour moi, aux yeux de Mrs. Bobby, ma digne épouse, je suis un esprit pondéré, précis, qui recherche les faits, rien que les faits. Oh, je vous en conjure, dites-moi quand ou comment vous avez vu le nommé Cosworth et comment il a pu accomplir ce prodige d'être vivant ici et 3 heures après, mort à Paris. Sir Russell passa la main sur son front. Mais vous avez raison. Oh, si bien mon secret m'étouffe, et puisqu'il est déjà à demi révélé, ce sera pour moi un soulagement décisif que de le livrer tout entier. Il se mit à marcher dans son cabinet d'un pas fiévreux. Sachez donc que par l'étude des terres rares, hein, fit Bobby involontairement. Ah oui, c'est vrai. Vous ignorez tout de notre science. Iridium, gallium, thallium, polonium sont pour vous des mots barbares ne présentant aucun sens précis. J'ai entendu parler du radium, dit timidement Bobby. Bon, laissons cela. Bref, j'ai découvert le moyen de condenser une force radiographique inouïe, colossale, sous un volume d'une petitesse et d'une légèreté incomparables. Et il tira de sa poche, de son gilet, un objet qui ressemblait à une montre. Tenez, voyez ceci. Je n'aurai qu'un geste à faire, un coup d'ongle à donner, pour vous foudroyer instantanément. Monsieur Bobby eut un léger mouvement de recul. Il songea à Mrs. Bobby. Oh, n'ayez aucune crainte, reprit Sir Russell d'une voix soudainement calmée. Bon, je continue. Oui, j'ai construit un appareil d'aviation, c'est-à-dire un plus lourd que l'air, n'empruntant rien à l'air lui-même comme moyen de sustentation, agissant d'après sa propre force, sans aucun secours extérieur, ne tenant compte ni du vent ni de la tempête, Mais alors devant lui, à la façon du boulet de canon qui sort de la pièce, avec cette supériorité que la force propulsive est en lui, et j'ajoute enfin, est inépuisable. C'est merveilleux, hasarda Bobby, qui, voyant l'éclat excessif des yeux de son interlocuteur, se demandait si vraiment il n'était pas en face d'un véritable aliéné dont peut-être la fréquentation pourrait devenir dangereuse. Non, c'est tout simplement beau, rectifia Sir Raphaël. Donc cet appareil encore inachevé, quoique poussé à sa presque ultime perfection, se trouvait là, dans la petite cour que vous voyez. Il se composait d'une caisse très simple, de métal et de bois, capable de résister aux chocs les plus violents. Le moteur, c'est-à-dire la partie vivante, le centre, à la fois le cerveau et le plexus solaire de l'appareil, avait été mis au point par moi-même le 1er avril au matin. J'avais adapté en sa place le siège, très confortable d'ailleurs, du conducteur du Virioli. J'avais chargé le moteur, installant dans des poches intérieures de la caisse une quantité suffisante de substance génératrice, ainsi que des provisions de bouche pour plusieurs semaines. Tout cela ne tenant qu'une place infinitésimale. J'étais décidé à partir le 2 avril, dès le lever du soleil, pour aller, je voulais piquer devant moi, à travers le ciel, à travers l'espace, m'enivrant de l'immensité et surtout, savourant cette joie indicible d'avoir, moi et moi seul, définitivement réalisé la conquête de l'air. Et alors, au retour, avec quel orgueil, je me serais élancé chez Miss Mary Redmore et je lui aurais crié « Maître de l'univers, je le mets à vos pieds !» Hélas, la fatalité veillait, et le coup qu'elle allait me porter devait, en anéantissant mes espérances, briser à jamais ma vie. Il s'interrompit et son visage exprima un profond désespoir. « Voyons, voyons, » fit bonnement l'excellent Bobby, « un enfant de la Grande-Angleterre ne se laisse pas abattre. Tenez, celui qui vous parle, Bobby, qui n'est pas des premiers venus, a subi de grandes crises dans sa vie. Et toujours, il est tenu droit devant la fatalité, et il l'a dompté. » Sir Arthur parut n'avoir pas entendu cette symphonie héroïque. Il continua. J'avais passé la journée du 1er avril à réviser certains calculs, à essayer certaines pièces de mon appareil. J'avais écrit à Miss Mary une lettre où je lui faisais part et de mon départ et de mon prochain retour. Modestement et sans emphase, je lui faisais pressentir l'immense importance de l'œuvre que j'allais accomplir. Et après un rapide repas aux deux pilules Berthelot, je m'étais installé dans un fauteuil, ici, devant cette fenêtre, regardant amoureusement l'appareil qui, sous la douce lueur lunaire, se profilait à la fois robuste et élégant. Je m'étais légèrement assoupi, bercé par mes rêves d'avenir. Quand, tout à coup, un bruit insolite me fit tressaillir. J'ouvris les yeux et je vis une forme humaine qui se silhouettait au sommet du mur, à côté de la grille. Je me dressai précipitamment et m'élançai dehors. Hélas, si rapide qu'eût été mon mouvement, il était encore trop tardif. D'un vigoureux élan, l'homme, dont je vis très bien le visage à la clarté de la lune, avec des gestes fous, courut vers l'appareil dont la forme rappelait, je dois vous le dire, celle des chaises à porteurs. Brusquement, il ouvrit la porte et s'y introduisit. « Sur votre vie !» m'écriai-je, « pas un geste, pas un mouvement !»« Que se passa-t-il ? » Je ne puis que former une hypothèse. Sans doute cet inconnu, s'étant assis sur le siège que j'avais préparé de telle sorte que tous les éléments mécaniques de mon appareil fussent à ma portée, imposé la main au hasard sur un des leviers dont l'action mettait en plein développement la force dont je vous ai parlé. Bref, avant que j'eusse pu intervenir autrement que par des appels et par des cris, dont il n'était d'ailleurs tenu aucun compte, je vis l'hélice supérieure se mettre en marche avec une rapidité vertigineuse. Le vrilliogyre fut enlevé de terre avec plus de facilité que s'il n'eût été qu'un fétu de paille, monta dans l'air avec la rapidité d'un obus et disparut dans le ciel, dans la nuit, dans l'immensité obscure et profonde. Il me sembla que je venais de recevoir un coup en plein crâne. Je tremblais de toute ma hauteur comme foudroyé. Car comprenez-le bien, monsieur Bobby, ma vie si paisible, toute de patience et d'étude, soudain se trouvait bouleversée par une double catastrophe. J'avais tué un homme, un inconnu soit, mais un de mes frères en humanité. Oh, tué, tué, fit Bobby, il s'est bien tué lui-même. Oui, mais n'est-ce pas par moi, qui ai fourni l'instrument de sa mort? Pourquoi cet appareil formidable, que moi seul savais guider, avait-il été abandonné par moi dans une cour? Mais dans une cour où on ne pouvait pénétrer que par escalade, c'est-à-dire en ivrogne ou en fou. On ne passe pas par-dessus un mur, que diable! Ou alors c'est à vos risques et périls. Alors vous savez bien reconnu celui dont je vous ai montré la photographie. Oui, si court que était le temps pendant lequel je l'ai vu, je ne puis concevoir aucun doute, le malheureux. Oh, dites ce misérable, ce bandit, John Coulsford, serait mort à corde au cou en débarrassant la société. Sans le vouloir, vous lui avez rendu service, et infameux encore. Mais son visage me hante toutes les nuits, comme aussi le cri horrible qu'il a poussé quand il s'est senti arraché de terre. Pas de sensiblerie, reprit M. Bobby d'un ton péremptoire. La conduite de coquin, chance de coquin. Cessez de vous apitoyer sur le sort de ce gueux. Mais selon vous, que lui est-il arrivé pour qu'on l'ait retrouvé mort, accroché aux grilles d'un monument public à Paris, comme c'eût été ici, par exemple, à Trafalgar Square, le cadavre plié en deux sur la grille qui entoure la statue de Nelson? Hélas, l'explication est trop simple. Emporté par le vilirogyre, l'homme a d'abord été étourdi, désemparé, ne comprenant pas ce qui arrivait. L'installation ayant été disposée par moi et pour moi, j'en connaissais les détails, je m'y adaptais sans aucune gêne, mais il ne pouvait en être de même pour un intrus. La rapidité vertigineuse de la course, le bruit de l'hélice, peut-être le ronflement du moteur, qui n'étant pas dirigé devait tourner avec une intensité effroyable, tout au milieu de la nuit, et avec l'appréhension naturelle que procure l'espace immense autour de soi, a dû contribuer à l'affolement de ma victime, qui a essayé de s'échapper de cette machine d'enfer. Oui, et tombé place de la Concorde à Paris. Donc Coxward est bien Coxward. J'ai recouvré mon bonheur. Ah, oh, Sir Russell, continua Mistress Bobby, vous sera reconnaissante. Et comme je vais taper sur les doigts de ces stupides journalistes français qui m'ont abreuvé d'outrage, ah, ils n'en seront pas les bons marchands, je vous le jure. Or, voici que, juste à ce moment, la bergère, qui patientait depuis plus d'une heure, car le récit de Sir Raphaël avait duré fort longtemps, étant sorti de la pièce où il avait été séquestré, s'était décidé à tout risque à venir réclamer celui qu'il venait d'interviewer. Il avait facilement retrouvé la cour d'entrée, avait avisé la porte par laquelle il avait vu Bobby pénétrer à l'intérieur, et ma foi, arrive qui plante, il troublerait un entretien beaucoup trop prolongé. Il posa donc nettement la main sur le bouton de la porte, et ouvrit brusquement, au moment où M. Bobby, tout à la joie féroce de la revanche espérée, accentuait son monologue de gestes exaspérés. Oh, voici qu'il aperçut la bergère. Et se retournant encore une fois en face d'un de ses ex-persécuteurs, il se rua sur lui et le saisissant dans la cravate se mit à hurler. Ha ha! Coxward n'est pas Coxward! Ah, et tant à Claude, à 1 heure du matin, Coxward ne pouvait pas être à 5 heures place de la Concorde. Eh bien, il y était, monsieur le journaliste. Il y était, et je le prouverai. La bergère, qui au demeurant était fort solide, saisit les poignets du rageur Babi et, l'éloignant de lui, le força à s'asseoir. Et alors, s'adressant à Sir Athol, « Monsieur, je vous demande sincèrement pardon, mais il me plairait fort que l'attente ne se prolongeât pas outre mesure. Maintenant que vous avez donné audience à cet imbécile, daigneriez-vous m'entendre à mon tour ?» Sir Athol n'avait prêté qu'une fort légère attention à ce nouvel incident. Il était absorbé dans ses pensées, mais déjà un peu rasséréné grâce aux renseignements que lui avait fourni Bobby sur l'identité de sa victime. Coxward un bandit, eh bien le crime se transformant en accident. Bobby l'excuse, monsieur, dit-il à la bergère, mais vous me pardonnerez de vous avoir presque oublié, je l'avoue, en raison de l'importance du profond intérêt des nouvelles que monsieur Bobby venait m'apporter. Et Bobby, l'incorrigible, de s'écrier, à propos de Coxward, vous vous rappelez comment vous tous, tant de folliculaires français, vous êtes rués après mes choses lorsque je soutenais que le corps de l'obélisque était celui de Coxward. À toi, c'est ri. À toi, c'est insulter la police de mon pays et chercher à déshonorer l'Angleterre en l'humble personne de son plus fidèle citoyen. Eh bien, monsieur, il faudra déchanter et reconnaître que c'était vous, misérable gratte-papier, qui, en infligeant un stupide démenti à un homme de bien, commettiez une action répréhensible de tout point et dont vous porterez la peine en ce monde et dans l'autre. » La bergère regardait Bobby avec quelque étonnement. Mais que rabâchait-il avec son histoire de Coxward ubiquiste? Il savait bien, lui, que cette simultanéité de présence était impossible, puisque c'était lui qui, rédacteur en reporter, avait, pour le compte de ce journal, institué et mené à bien l'enquête à laquelle le solliciteur de Londres avait conféré toute authenticité. Pourtant, comme maintenant il était attaché au nouvelliste, adversaire du reporter, il eût été fort satisfait que Bobby ne fût pas fou, et que malgré toute vraisemblance, Coxward de Londres et le mort de Paris étant réellement et définitivement le même homme, il lui fut permis de dauber sur le reporter, son ancien patron, au bénéfice du nouvelliste, son nouveau client, qui gardait toujours à son rival une rancune colossale et paierait fort cher le droit de lui tailler des croupières. Il s'adressa à Sir Athol, en apparence fort indifférent à la querelle. « Il semble, lui dit-il, que votre entretien avec ce bonhomme et tu trait à cette ridicule affaire Coxward qui, un instant, a passionné Paris. Il ne peut être exact que ce Coxward se soit trouvé à Paris le 2 avril à 3 heures du matin. Hélas, fit cela fait en tressaillant, il devait y être beaucoup plus tôt que cela. Il n'était donc pas à Londres dans la soirée du 1er. Oh, si fait, il y était, et je ne le sais que trop. Mais c'est impossible. Mais cela peut vous paraître impossible, dit froidement Sir Athol. Mais cela est. Ce malheureux Coxward est parti d'ici, de cette cour que vous voyez à 1h35 du matin. Et il aurait fait 450 km en 4 heures. Or, beaucoup moins que cela, monsieur. Ah, donc là, je ne puis pas comprendre. « Mais c'est évident, cria Bobby, que les ignorants de français ne peuvent rien comprendre. Est-ce qu'ils connaissent les terres rares, le tadium, le foronium le... ?» Le brave détective s'embrouillait un peu dans ses dénominations scientifiques, mais il continuait. Et le virogyre, monsieur le journaliste, et la force électrique qui va bouleverser le monde et le trajet de Londres à Pékin en 30 minutes. Est-ce que vous avez la moindre notion de tout cela ? La bergère, comme tous les journalistes français d'ailleurs, était douée d'une imagination rapide, jointe à une vive faculté d'assimilation. Ah, il s'agit d'une machine électrique ? Demanda-t-il à Sir Arthur. Ah, le mot n'est pas parfaitement exact. Machine radioactive plutôt, mais j'ai dû employer l'expression d'électrique pour être plus clair. Et cette machine, continua la bergère, est un appareil d'aviation ? Oui, en effet. Et c'est par cet appareil que Coxswain aurait fait le trajet de Londres à Paris dans la nuit du 1er au 2 avril ? Mais là, je n'en suis que trop convaincu. C'est ainsi que j'ai à déplorer et la mort d'un homme et la destruction d'un engin dont la construction et l'aménagement m'avaient coûté 2 années de travail et que peut-être je n'aurais pas le courage de reconstituer. Maintenant, jamais encore un mot, fit la bergère qui paraissait violemment émue. Mais quelle forme à peu près ? Celle d'une guérite ou d'une chaise à porteur ? Mais c'est justement au sujet d'une machine de ce genre que je suis en mission journalistique à Londres. Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai montré une lettre à votre adresse émanant d'une maison de produits chimiques ? Ah oui, oui, s'écria Sir Russell. Oh, dans les émotions multiples qui m'assaillent, j'avais oublié ce détail. Cette lettre m'appartient en effet, mais où donc l'avez-vous trouvée ? Bon, dans un terrain vague du quartier des Carrières d'Amérique à Paris. Expliquons à quelle aventure se rattachait cette péripétie nouvelle. Chapitre 5. Le mystère du 19e arrondissement. L'incident Coxswain, si amusant qu'il eût été pour la galerie des badauds parisiens, surtout en raison de la lutte épique qui s'était livrée entre les deux grands journaux, le Nouvelliste et le Reporter, était tombé bien vite dans le panier d'oubli. D'autant que certains faits politiques avaient tout à coup donné un nouvel aliment à la curiosité. Des gifles avaient été échangées en plein Parlement entre personnages assez haut cotés et ministrables, et la chronique scandaleuse à l'affût des faiblesses humaines avait révélé de cette querelle le motif concernait beaucoup moins le budget de la France que celui de certaines petites personnes, grassouillettes et aimables, qui jouaient avec grand succès un rôle de libellule dans une revue des variétés. Puis avait été l'arrestation sensationnelle d'un officier ministériel qui, curieux des joies de la grande vie, avait dilapidé en dépenses, à côté, le patrimoine de 50 familles, aux affaires assez banales d'ailleurs. Enfin, ajoutons un carnage au boulevard Ménilmontant, le mariage d'une américaine milliardaire avec un panné à nos illustres, et l'accalmie subitement s'était de nouveau abattue sur le journalisme parisien dont le marasme faisait peine. En vain, à propos d'un écrasé ou d'un misérable incendie, on multipliait les manchettes à effet, mais comme on dit, le public ne mordait pas et les bouillons augmentaient. Or, le vrai talent d'un reporter, c'est de trouver une affaire de peu d'importance en soi, et par le tam-tam organisé alentour, par le grossissement des moindres détails, lui donner, en apparence, une valeur d'étrangeté qui émeuve les populations. La bergère était maître en ces sortes d'opérations. Tout récemment attaché au Nouvelliste, qui lui avait fait un pont d'or pour l'arracher au reporter, il cherchait donc activement quelques faits auxquels il put attacher tous les grelots de la publicité. Et voici ce qu'il avait appris. Dans un des quartiers excentriques de Paris, à l'extrémité est des Buttes-Chaumont, se trouvent, du côté de la place du Danube et de l'hôpital Hérold, des terrains encore vides de construction, attenant aux fortifications. Ces terrains reposent sur d'anciennes excavations, naguère connues sous le nom de carrière d'Amérique, et dont l'exploitation a été dès longtemps abandonnée. D'importants travaux de comblement et de soutènement ont été exécutés à très grands frais, mais il semble que le sol lui-même repose sur des fondements mouvants, et de temps à autre, malgré toutes les précautions prises, des fentes se produisent assez profondes et susceptibles de causer de graves accidents. Même, il y avait quelques mois, une pauvre journalière passant dans ces parages avait été surprise par une de ces subites dépressions du sol et aurait été certainement engloutie si de secours rapides ne lui avaient été portés. Encore, son sauvetage n'avait-il pu s'effectuer qu'au prix des plus grands efforts. Par une chance inespérée, elle s'en était tirée saine et sauve. Mais à la suite de ces accidents, les terrains, pour en éviter le retour, avaient été clos de palissades en planches, et avant que de nouveaux travaux fussent entrepris pour la consolidation du sol, l'accès en avait été formellement interdit. Le temps passant, les vagabonds, les apaches et les cheminots avaient pratiqué des ouvertures dans cette palissade, et souvent ils lisaient domicile à l'abri de toute ingérence de la police, dans ce lieu que protégeait à la fois et son isolement et une certaine crainte de la part des plus proches voisins. Or, un matin, des gamins en rupture d'école s'étaient avisés de franchir l'enclos et s'étaient répandus à travers le terrain, tout de sable, de pierre, de plâtras, dans l'intention d'ailleurs bien innocente d'y jouer tranquille quelques parties de balle ou de course. Soudain, on entendit des cris horribles et les enfants s'enfuirent dans la rue, quelques-uns livides, à demi-morts, les membres tordus, et les autres ne cherchaient pas à les secourir. Ils couraient de ci, de là, affolés, poussant des clameurs inarticulées. Bien que l'endroit soit fort peu fréquenté, cependant des passants accoururent, et bientôt un groupe les entoura, relevant ceux qui, à terre, semblaient en proie à de véritables convulsions, et d'autres interrogeant ceux qui paraissaient les plus valides. Les enfants répondaient par des mots sans suite. Là, dans le terrain, une bête, un monstre, qui s'était jeté sur eux, les avait égratignés, mordus, à demi dévorés. Certes, il y avait exagération dans ces racontars, puisque tous étaient encore pourvus de leurs membres intacts. Cependant, il s'était certainement produit un fait naturel, et bien que très courageux, certes, les assistants restaient devant les palissades sans se hasarder à les franchir, d'autant, assuraient quelques-uns, qu'on entendait derrière les planches une sorte de rugissement sourd, de ronflement, qui ne présageait rien de bon. Heureusement, on avisa deux sergents de ville et on les appela. Ceux-ci s'approchèrent avec la majestueuse lenteur qui caractérise cette institution. Ils virent trois enfants de 8 à 12 ans, inertes maintenant, immobiles et étendus sur la terre. À leurs questions, il fut encore répondu par des explications incompréhensibles, d'où seulement jaillissaient les mots de « monstre », « d'animal féroce ». Ayant lancé des coups de sifflet à l'appel de leurs camarades, les policiers, bientôt au nombre de quatre, se divisèrent en deux groupes, le premier emportant les enfants qui vivaient, mais semblaient plongés dans une prostration profonde vers le commissariat. Le second faisant sentinelle, le sabre à la main devant l'ouverture pratiquée dans la palissade. « Si qu'on verrait un peu voir ce qu'il y a là-dedans, » dit l'un. « Oh, ça va, » dit l'autre. Et vaillamment, ils engagèrent leurs robustes épaules dans l'ouverture assez étroite. Le terrain avait bien 100 mètres de long sur 40 de profondeur. Il était bosselé, vallonné, avec ça et là des tas de pierrailles ou des collinettes de sable sur lesquelles poussaient de maigres touffes d'herbe. Dans une de ses parties les plus proches de la rue, il se creusait en forme d'entonnoir, dont le centre se trouvait à environ 1 mètre de profondeur, et là on voyait, à demi émergent d'un chaos de cailloux et de mottes de terre séchées, quelque chose de bizarre, d'hétéroclite, comme un sommet de kiosques à journaux ou de colonnes à affiches. Les deux sergots examinaient cela avec quelque défiance. On avait vu parfois des coffres-forts enlevés par des cambrioleurs et ainsi abandonnés dans un terrain désert. Mais que des malfaiteurs eussent enlevé un kiosque ou une Vespasienne pour les transporter derrière cette clôture de planches, cela paraissait singulier, voire même invraisemblable. Comme en prévision d'une rencontre avec un animal sauvage, qui sait, un fauve échappé de quelque ménagerie, nos deux héros avaient dégainé. L'un d'eux, se penchant sur le bord de l'entonnoir et allongeant le bras, toucha l'objet de la pointe de son coupe-chou. Subitement, il laissa échapper une exclamation de douleur, sauta en l'air à une hauteur 1 mètre et vint s'affaler dans les bras de son compagnon. « Là, là, qu'est-ce qui te prend, mon vieux ?» Mais mon vieux ne répondait pas. Ses bras et ses jambes étaient secoués d'un mouvement presque convulsif. Le pire, c'est que l'autre éprouvait lui-même un malaise dont il ne comprenait pas la nature, une espèce de fourmillement dans tous les membres, en même temps que des lueurs fulgurantes tourbillonnaient devant ses yeux. Par un geste réflexe, il lâcha son compagnon qui tomba sur le sol. Alors il se sentit soudainement soulagé, mais une invincible lassitude le brisait, et il se laissa tomber sur un genou, dodelinant de la tête comme un homme étourdi d'un coup de bâton en plein crâne. Il ne revint à lui qu'au moment où, par l'ouverture de la palissade, arrivèrent le commissaire de police, accompagné de son secrétaire avec une demi-douzaine de sergents de ville. La foule avait grossi autour de l'enclos, et maintenant, rassurée par la présence de l'autorité, faisait irruption à sa suite. Une poignée de gamins fit cortège. Les sergents de ville, apercevant leurs camarades en mauvaise posture, s'élancèrent à leur secours. À peine les eurent-ils touchés qu'ils ressentirent quelques secousses qui ne firent d'ailleurs que les étonner, sans autre résultat fâcheux. « Voyons, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda le magistrat. « Comment êtes-vous dans cet état ?» Le sergent numéro 2, qui recouvrait l'usage de la parole, dit « Machine infernale, là, dans le trou !» Et, suivant la direction de son geste, le commissaire vit le toit du kiosque, employant ce mot pour être clair, surmonté d'une sorte de rampe en métal, venu sans doute de quelque drapeau ou attribut quelconque. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, si qu'on le saurait, repartit le sergent. C'est ce camarade qui y a touché du bout de son sabre et qui a été foutu par terre, comme ma femme sous une gifle. Mais on m'a parlé d'un animal dangereux, d'une bête féroce. Non, il n'y a pas d'autre que cet outil-là, qui doit être quelque machine d'anarchiste. Le commissaire haussa les épaules. Perplexe, il s'abstint cependant de toucher à l'objet et interdit à ses hommes tout contact avec lui. Après tout, cette idée d'anarchisme n'était peut-être pas si folle. D'autant que maintenant, on percevait très clairement à l'intérieur du kiosque un halètement, un ronronnement intermittent, comme l'aurait produit le gosier d'un fauve en colère, ou quelque ressort énorme d'une montre ou d'une mécanique quelconque. Cela n'était pas continuel, s'arrêtait, recommençait, mais n'en était pas pour cela plus rassurant. Le sergent, au coupe-chou, avait été ranimé à un grand renfort de Kirsch, mais était incapable de fournir la moindre explication sur la nature de ses sensations, qu'on devinait seulement n'avoir pas été les plus agréables. Que faire? Heureusement que l'administration a des principes qui lui servent de guide en toutes circonstances. En celle-ci, la règle était simple, en référer à ses chefs. Le commissaire, résolu à suivre ce précepte, dont l'observation le dégageait de toute responsabilité, se mit alors en devoir de recueillir tous les renseignements nécessaires pour dresser procès-verbal et, en premier lieu, de décrire aussi exactement que possible l'objet mystérieux qui gisait là, à demi, aux trois quarts peut-être, enfoui dans les pierres et le sable. S'approchant avec toute la prudence compatible avec son courage civique, le magistrat dicta des notes à son secrétaire. Le toit de l'objet, arrondi, rappelant vaguement la forme du casque allemand, reposait sur quatre colonnettes de métal, réunies elles-mêmes par des croisillons, qui paraissaient d'argent ou plus vraisemblablement de nickel. La forme générale était carrée. Cette cage, oh, le mot décidément valait mieux que celui de kiosque, sortait de la terre d'environ 80 cm et la partie inférieure était cachée dans le sol. En tendant l'oreille, on entendait de temps à autre, à l'intérieur, un bruit difficile à définir, comme d'un ressort qui se serait déclenché et aurait mis en mouvement une roue ou un volant. Le procès-verbal décrivait de la façon la plus correcte possible des phénomènes bizarres qui se développaient lorsqu'on touchait l'engin que, entre guillemets, malgré son incompétence avouée, le commissaire n'hésitait pas à qualifier d'électrique ou approchant. Un petit incident se produisit. Un des gosses, rôdaillant dans le terrain, trouva dans un coin, profondément enfoncé dans la muraille, une pièce de métal, plate, étroite, assez longue, aux bases arrondies, une sorte de palette ou d'ailette. Comme il essayait de l'arracher, le magistrat s'y opposa formellement, estimant que désormais il appartenait à l'autorité supérieure de parfaire l'enquête qu'il avait si intelligemment commencée. Inutile de dire qu'il avait interrogé les voisins les plus proches et que tous s'étaient accordés à dire, avec une rare unanimité, qu'ils ignoraient absolument ce que pouvait être la machine en question et comment elle se trouvait dans le terrain vague. Ajoutons enfin qu'au bout d'une demi-heure, les enfants et le sergot, si abominablement secoués par l'incompréhensible commotion, étaient tout à fait revenus à leur état normal. Un menuisier requis boucha les ouvertures de la palissade, un sergent de ville fut placé en faction, et chacun s'en alla, léger, à ses affaires, le procès-verbal s'acheminant doucettement vers la préfecture, où peut-être, vu le caractère très anodin de l'aventure, il se serait sans doute endormi placidement dans le carton numéro 7, à moins que ce ne fût le dossier numéro 23. Mais on avait compté sans notre amie la bergère, qui, comme nous l'avons expliqué, était en quête d'une affaire sensationnelle, et comme le roi Richard III, de shakespearienne mémoire, eût volontiers donné son cheval ou son auto pour un veau à trois têtes ou un cataplisme d'un logeant sur Marne. Or, ayant son service de fouinage, c'était son mot, parfaitement organisé, il avait été avisé l'un des premiers de l'étrange aventure de la rue des Carrières d'Amérique, et aussitôt son sang de reporter s'était mis à bouillonner. Bon, cela pouvait n'être rien du tout, mais dès le premier moment, il se dit qu'il fallait que cela devînt quelque chose. Il ne se doutait certes pas que c'était là le début de la plus terrible, la plus stupéfiante, la plus abracadabrante épreuve à laquelle eût jamais été soumise la ville de Paris. Peut-être même, s'il eût pu lire dans l'avenir, aurait-il reculé devant les épouvantables événements qu'il allait déchaîner. Mais non, le devoir professionnel avant tout. Le nouvelliste payait fort cher. Ah, il fallait qu'il en eût pour son argent. Le lendemain, il arborait cette manchette. Un sinistre phénomène en plein Paris, trois enfants électrocutés, un sergent de ville foudroyé. Il racontait, sous les couleurs les plus émouvantes, la découverte de l'engin infernal et les premières catastrophes qu'il avait causées, et il concluait par ses critiques virulentes. 12 heures se sont déjà passées, et nous avons le regret de constater que l'administration n'a pris aucune mesure pour parer au danger très réel couru par la population. On nous permettra de demander si ce n'est pas en pareille circonstance que le laboratoire municipal doit prouver son utilité, trop souvent contestable. Naturellement, le reporter, qu'exaspérait la défection de son principal rédacteur, se hâta d'entrer en lice. Certains journaux, à court de nouvelles sensationnelles, mènent grand bruit autour d'une affaire sans importance. Il s'agit tout simplement, nous affirme-t-on, d'un appareil de physique, machine électrique ou bouteille de LED, que des cambrioleurs ont abandonné dans un terrain vague. Quelques étincelles électriques se sont produites et ont causé plus d'émoi que de mal véritable. Ah, ces anciens patrons entraient en lice. La bergère allait s'amuser. Il était arrivé bon premier, il allait le leur prouver. Et le numéro suivant du Nouvelliste marchait carrément de l'avant. Les aboiements enroués d'une presse à faune ne nous empêcheront pas de poursuivre notre tâche. Nous avons signalé un danger inconnu, mystérieux, dont les effets échappent jusqu'ici à toute analyse. Et nous ne craignons pas, hélas, qu'on nous taxe d'exagération. On se souvient de la découverte que nous signalions hier d'un engin étrange, sorte d'appareil électrique ou peut-être radiographique, trouvé dans un terrain vague à l'extrémité du 19e arrondissement et qui a déjà failli coûter la vie à des enfants innocents et un brave défenseur de l'ordre public. Nous avons pris ce matin des nouvelles de ces victimes et nous avons appris que leur état, pour être satisfaisant, n'en présentait pas moins un caractère encore assez alarmant. Les internes de l'hôpital Hérold, que nous avons pu interroger, ont recueilli de leur bouche des détails sur l'événement. Tous s'accordent à déclarer qu'à peine ont-ils touché l'engin en question, qu'ils ont éprouvé une commotion violente. « Comme un coup de fouet dans les moelles », a dit un des enfants. « Comme un coup de poing américain sur la nuque », a dit le sergent de ville. Des étincelles ont éclaté devant leurs yeux, en même temps qu'une sensation d'engourdissement paralysait leurs membres. Il est évident que ce sont là des effets de nature électrique et que nous nous trouvons en présence d'un appareil inconnu dégageant des effluves dont l'effet rappelle celui des piles les plus puissantes. Nous nous étions d'ailleurs trop hâtés d'objurguer l'administration en lui reprochant son incurie. Dès ce matin, à la première heure, M. Lépine, qui ne ménage jamais son activité ni sa fatigue, s'est rendu, accompagné de M. Loustalot, chef du laboratoire municipal, et de ses préparateurs au terrain de la rue des Carrières d'Amérique. Déjà une foule considérable obstruait les rues voisines de l'endroit désigné, et il fallut établir un important service d'ordre pour la contenir. Un bruit courait que l'engin en question, qui a une capacité approximative de 2 mètres cubes, la partie enfoncée dans le sol ne permettant pas un calcul plus exact, était peut-être rempli de matières explosives et qu'il pouvait éclater au moment où on s'y attendrait le moins et faire sauter tout le quartier. Déjà, les locataires quittaient leur maison en emportant leurs meubles, tristes épaves d'ailleurs, car ce quartier est un des plus pauvres de Paris. Quand les sergents de ville parvinrent à frayer à notre courageux préfet un passage à travers la foule, Tous se découvrirent respectueusement. Monsieur Lépine, en chapeau melon et en veston, gardait, comme d'ordinaire, une physionomie très calme, avec à la lèvre un sourire quelque peu sceptique. Il en a vu bien d'autres. Son calme courage était déjà rassurant pour les groupes de curieux, et on eut toutes les peines du monde à les empêcher de se précipiter à travers l'issue pratiquée dans la palissade. Il fallut que, par quelques-unes de ces paroles énergiques dont il a le secret, notre préfet empêcha une véritable invasion. Et, flanqué d'une douzaine de sergents de ville, M. Lépine, M. Loustalot et les attachés au laboratoire municipal restèrent seuls dans le vaste enclos. Ils se groupèrent immédiatement autour de l'engin. Un des sergents de ville, qui la veille était entré l'un des premiers et avait examiné l'appareil mystérieux, déclara que, selon lui, il avait légèrement changé de situation. Il aurait, affirmait-il, tourné sur lui-même et se serait enfoncé de quelques centimètres. Il s'agissait d'abord de constater si les effets électriques observés la veille se reproduisaient encore. M. Loustalot fit disposer des appareils isolateurs qui, nous expliqua-t-on, remplirait au besoin l'office de paratonnerre et soutirant pour ainsi dire l'électricité, s'il était vrai que l'engin en fût assuré, le forcerait à se perdre dans la terre. Ces préparatifs durèrent assez longtemps. L'impatience du public grandissait à chaque instant. Malgré les efforts des agents, on s'était accroché aux planches de la palissade au-dessus de laquelle surgissaient des centaines de têtes. M. Lépine conféra un instant avec M. Loustalot, qui se refusa à admettre un danger réel. « En tout cas, conclut-il, nous sommes en mesure d'y faire face. »« Mais agissez donc, » dit le préfet, qui se tint au premier rang avec sa crânerie ordinaire. M. Loustalot appela alors un de ses aides, qui s'approcha armé d'une longue tige de métal, dont un gant de caoutchouc empêchait le contact avec sa peau, et après s'être assuré que les appareils de déperdition étaient en état de fonctionnement parfait, mit la baguette métallique en contact avec le toit de l'engin. À ce moment éclata une détonation terrible, pareille à celle d'un canon de petit calibre, en même temps qu'une flamme longue de plusieurs mètres sifflait dans l'air avec un bruit effrayant. Malgré la substance isolatrice qui le protégeait, le malheureux électricien fut projeté en l'air à une hauteur de 2 mètres et retomba sur M. Lépine, qui, arc-bouté sur ses jambes, impavide et inébranlable, le reçut dans ses bras et amortit sa chute. Une clameur terrifiée avait salué cet incompréhensible phénomène, et en une seconde, la palissade s'était dégarnie de spectateurs, tous s'enfuyant dans toutes les directions en poussant des cris de terreur. L'électricien, nommé d'Argent, Émile, avait eu heureusement plus de peur que de mal. Un court évanouissement avait suivi sa chute, un cordial et quelques inhalations d'oxygène avait eu raison du malaise déterminé par cette secousse. Quoi qu'il en fût, il était évident qu'il y aurait de graves dangers à poursuivre une expérience dans ces conditions. M. Loustalot, d'ailleurs, malgré son indiscutable compétence, semblait désemparé et il répétait ce mot découragé. « Mais je ne comprends pas, mais que faire ?» Mais le préfet, toujours souriant et satisfait que l'événement n'eût pas eu des conséquences plus tragiques, prit bien vite, avec son initiative habituelle, les mesures nécessaires. « Que faire ? » répliqua-t-il à M. Loustalot. « Mais c'est bien simple, rien du tout. Cette tentative suffit pour démontrer qu'il y a péril à s'entêter plus longtemps. Nous ne croyons pas au surnaturel, n'est-il pas vrai ? Donc, il n'y a là rien de diabolique. Nous possédons assez de savants à Paris pour que ce petit problème puisse être bientôt résolu. Il s'agit seulement de défendre la population contre sa propre imprudence. Bon, nous verrons après. En effet, une heure après, des soldats arrivaient qui fermaient toutes les voies conduisant au terrain vague en question. Monsieur Lépine se rendait au ministère de l'Intérieur et rendait compte au ministre du résultat de sa première enquête. Une commission fut aussitôt nommée sous la présidence de Monsieur Poincaré et composée des membres les plus éminents de l'Académie des sciences et du Conservatoire des arts et métiers. En tout cas, il est opportun de rappeler aux plaisantins de la presse qu'il y a loin de là une machine électrique ou une bouteille de LED abandonnée par des cambrioleurs. Peut-être nos confrères, si sceptiques qu'ils soient, daigneront-ils reconnaître que le fait dont nous avons les premiers et les seuls signalé l'étrangeté valait mieux que quelques lignes de pasquinade et de mauvais goût. On devine l'effet produit dans Paris par cet article sensationnel. La grande ville se complète à l'affolement collectif. Un souffle d'inquiétude passa, circulant des loges de concierges au salon du grand monde. On commençait à avoir peur. Un journal ultra-pessimiste n'hésitait pas à accuser les anarchistes et les nihilistes de préparer un monstrueux attentat contre Paris, dont l'anéantissement était décidé depuis longtemps. On parlait déjà de déserter les hôtels, et le commerce s'inquiétait. Une note officielle parut dans l'excellente intention de rassurer les esprits, et eut comme toujours un résultat absolument contraire. En même temps, et par une contradiction bien humaine, tout Paris se portait vers les buts de Chaumont, la rue Manin et le boulevard Sévrier, où les quelques débits de vin réalisaient des affaires d'or. Les fortifications faisaient concurrence au boulevard et au bois de Boulogne. Une première visite de la commission avait eu lieu, mais sans apporter aucune lumière nouvelle. Seulement, cette fois encore, l'appareil s'était enfoncé légèrement dans le sol, et on avait constaté, non sans une nouvelle inquiétude, que le terrain qui l'entourait semblait se désagréger de plus en plus. Naturellement, le reporter La Bergère, qui avait ses entrées partout et trouvait toujours le moyen de se faufiler même dans les endroits les plus fermés, s'était mêlé aux membres de la commission, et tandis que ces messieurs exerçaient leur sacerdoce groupé autour du kiosque électrique, lui s'en allait de ci de là, examinant attentivement les diverses dépressions du terrain, cherchant à découvrir quelque indice qui pût fournir à son initiative une direction nouvelle. Ce fut ainsi qu'il trouva d'abord une seconde puis une troisième palette d'hélices qui prouvèrent à n'en pas douter qu'on se trouvait en présence d'un appareil de locomotion quelconque, sans doute une auto de nouvelle combinaison et qu'un inventeur avait essayé dans de malheureuses conditions. C'était à vérifier. Mais il y avait encore, dans un creux de sable, des débris de bois portant un reste de serrure et qui provenaient évidemment d'une sorte de coffret. Et tout auprès, La Bergère, qui ne négligeait rien, ramassa un morceau de papier que, par hasard sans doute, un fragment de pierre avait fixé à terre. Ce papier, c'était un fragment de lettre portant l'entête de la maison Laurel & Company de Londres, et justement l'adresse du destinataire y figurait. Sir Arthur Rondon, Corsica Street, Highbury, London, New West. Et ce sont ces diverses circonstances que maintenant, dans la maison de Corsica Street, le reporter du Nouvelliste exposait à Sir Athel en présence de Bobby, le détective honoraire. Les explications ne furent pas longues. Sir Athel n'hésitait pas. Oui, l'appareil mystérieux de Paris n'était autre que le merveilleux Vrillogir, et son échouement dans un terrain vague du 19e arrondissement était la conséquence naturelle de la terrible imprudence de Coxward. Quant au danger que pouvaient courir les Parisiens, cela seul ne compliquait pas nettement. Mais il était facile de deviner, à son attitude fiévreuse, qu'il n'était pas aussi rassuré qu'il eût voulu le paraître. « Oui, oui, » murmurait-il en se promenant à grands pas dans son atelier. « Mais il y en a plus de 50 grammes. La force propulsive est énorme. Si le piston A venait à rencontrer le réservoir D, ce serait effroyable. » « Voyons, voyons, » interrompit la bergère, « parlons peu, mais parlons bien. Vous reconnaissez que par votre faute, ou plutôt par celle de votre génie d'inventeur, tout un quartier de Paris est en péril. Mais votre devoir est tout tracé. Il faut réparer le mal que vous avez fait. Il faut empêcher que se produise quelque nouvelle catastrophe. « Vous avez raison, » s'écria Sir Raphaël. « À quoi sert-il de chercher quels peuvent être les effets du vrillium ?»« Vous dites... Ah, oh pardon, non, vous ne savez pas. J'ai dit le vrillium, c'est le nom que j'ai donné à la substance que j'ai découverte et dont la puissance est incalculable. Donc, oui, il faut sur le champ partir pour Paris. »« Enfin, c'est là ce que j'attendais. Comment y allons-nous? Avez-vous ici quelque nouvel appareil? Fut-il mu par le feu du diable ?» qui puisse nous y transporter. Ah non, hélas, l'appareil d'essai, le seul que j'ai possédé, est là-bas. Bon, ben alors il nous faut se muser des moyens ordinaires, comme les simples mortels. Quelle heure est-il? 1h15. Il y a un train par Boulogne à 2h20. Qui arrive à Paris à 9h du soir, ben c'est parfait. En route, êtes-vous prêt? Oui, 5 minutes seulement, le temps de prendre certaines substances dont l'usage m'est indispensable pour les opérations que j'aurai à effectuer. Il ouvrit rapidement une armoire scellée dans le mur et qui semblait blindée comme les parois d'un cuirassé. Il y choisit 2 fioles de métal qu'il enfouit dans ses poches. Vous n'avez sans doute pas déjeuné. Oh, ma foi, non, dit la bergère. Dans notre métier, vous savez, on va comme on peut. Sir Russell lui présenta une petite boîte en or, forme tabatière. Prenez une de ces boulettes, lui dit-il. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pilules Berthelot. Avec une seule de ces boulettes, vous êtes nourri pour plus de 24 heures. Mais la nourriture chimique, enfin j'en serai quitte pour un bon souper en arrivant. Je voudrais bien aussi une pilule, dit timidement Bobby, qui depuis qu'il avait entendu le récit de la bergère, se sentait en état d'infériorité manifeste. Bon, mon brave détective, dit le reporter, vous déjeunerez mieux chez vous. Mais c'est que j'entends bien partir avec vous. Vous? S'écria Sir Russell, à quoi bon? Comment à quoi bon? S'écria Bobby en se redressant. Mais qui donc est le plus intéressé en tout cela? Monsieur la bergère, oubliez-vous que le nom de Bobby a été déshonoré, et que c'est vous, oui, vous, qui avez déversé sur la police britannique et sur son modeste représentant le mépris universel. Moi, je vous en veux à mort, je ne vous le cache pas. Cependant, je suis prêt à vous tendre loyalement la main. Si non moins loyalement vous vous déclarez prêt à reconnaître publiquement que Coxward était bien Coxward. Mais parfaitement, mon camarade, dit à son tour la bergère, en lui présentant sa dextre largement ouverte. C'est trop naturel, et je vous offre tout ce que j'ai d'excuses sur moi. Ah, que vous me faites du bien! Ce n'est pas tant pour moi que pour Madame Bobby, qui va pouvoir enfin relever la tête. Aussi haut qu'elle le voudra. Donc vous voulez revenir à Paris, brave Bobby, qu'il soit fait selon votre volonté. Sir Russell, pilulez ce bon détective et ne perdons plus notre temps. N'oublions pas que pour gagner Charing Cross, nous avons tout Londres à traverser. Le métropolitain est là, dit Bobby. Nous arriverons encore à temps pour pouvoir télégraphier de la gare. Il faut bien que je prévienne Mrs. Bobby de mon départ. Oui, trop juste. Et moi, dit Sir Arthur, je dois assurer Miss Wedmore. Comme si je n'avais pas à télégraphier moi-même, ajouta la bergère. Oh, le nouvel liste aura ce soir une manchette qui ne sera pas dans une musette, et le reporter en crèvera de rage. Et les trois hommes, la maison de Corsica Street étant fermée, s'élancèrent au pas de course vers la station d'Islington.